Bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Les candidats à président de la République continuent leur campagne pour les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Si les questions relatives au développement économique, à la gouvernance et au social sont au rendez-vous dans cette campagne électorale, les questions liées à la situation sécuritaire semblent occuper une place de choix dans les discours des différents candidats. À ce sujet, chaque candidat affirme détenir un plan réaliste pour rétablir la paix, aussi bien dans l'est du pays où les groupes armés locaux et étrangers continuent d'opérer que dans toutes les provinces affectées par l'insécurité causée par les conflits interethniques et les phénomènes banditisme urbain. À 8 jours de ces élections, que peut-on retenir des propositions des candidats président de la République sur le plan sécuritaire? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 11 décembre 2023. Participe au débat Jean-Baptiste Omindo Kasekwa avec moi dans ce studio. Il est député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est aussi membre de la coalition, de la commission, défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Au téléphone, Francis Kalombo, cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il est porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Francis Kalombo, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Aussi au téléphone, Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, et c'est un projet conjoint de Jacques Ebouteli, Human Rights Watch, et de la Brightway Foundation. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly. Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous retrouver sur www.radiokapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Au Nord Kivu, situation calme mais toujours volatile hier dimanche sur les différentes lignes de front opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise dans les territoires de Masisi. Et d'après plusieurs sources locales, après un affrontement jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche, les lignes n'auraient pas vraiment bougé autour des localités de Kiroche et Chacha, environ à 10 km de Sake. Le M23 occupe toujours la colline de Ngingwe, surplombant Chacha. On va suivre ce reportage de Bernard Danyangi.
Une accalmie est observée ce dimanche matin autour de Sake, constatés les habitants joints sur place, même si ces derniers estiment qu'à tout moment la situation peut basculer et devenir hostile. Depuis 9h locales, samedi, des violents combats ont opposé l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du 23 autour de la colline de Ngingwe, surplombant le village de Chacha. Après 7 heures de combat, les lignes n'auraient pas bougé, font remarquer nos sources qui précisent que les rebelles contrôlent toujours cette colline située à près de 5 km de Chacha, un village jouxtant la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Pendant les combats, une bombe est tombée dans les périphéries de Sake, dans un endroit appelé Mayuta, mais sans faire de victimes, informent quelques sources. Les acteurs de la société civile à Masisi Centre nous confirment par ailleurs que l'accalmie est aussi observée dans la zone de Biambwe, ouest de Mushaki, où les rebelles du 1-23 s'arrêtent jusqu'à présent au niveau de la rivière Lushoga à l'entrée du village. Il faut préciser que Biambwe reste vidé de ses habitants. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Merci Bernardin Nyangi pour ce reportage, sachez, de la situation sécuritaire hier dans le Masisi. Alors je suis avec Jean-Baptiste Omindo Kasekwa dans ce studio, comme je l'ai dit, il est député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID. Nous parlons du programme des candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain. Nous sommes pratiquement à 9 jours des scrutins. On va prendre l'aspect sécuritaire. C'est vrai que chaque candidat a présenter hein, ce qu'il compte faire s'il est élu président de la République pour pacifier l'Est de la RDC. Martin Fayulu, par exemple, dit qu'une fois qu'il est élu président de la République, il va pacifier la République démocratique du Congo et instaurer une gouvernance intègre. Comment va-t-il s'y prendre? Qu'est-ce qu'il prévoit concrètement dans son programme aspect sécuritaire?
Le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, a été fort marqué en 2015 lors de sa visite à Goma. Dans un entretien avec la population de Goma, il a posé la question de savoir: si je suis élu président de la République, qu'est-ce que vous voudrez que je fasse en priorité pour vous? Et de manière unanime, tous ceux qui étaient présents dans la salle Full Gospel, dans la conférence de ces jours-là, lui ont dit: Monsieur Martin, nous, habitants du Nord Kivu, nous ne demandons rien d'autre que la paix, parce que nous savons tout faire. Raison pour laquelle, dans son programme qui propose des solutions sur 18 défis majeurs de la RDC, Martin Fayulu articule son programme sur 4 prérequis, à savoir l'intégrité territoriale et la pacification totale du pays. Deuxièmement, la gouvernance intègre. Troisièmement, la cohésion nationale. Et en quatrième lieu, Martin Fayulu propose la légitimité du pouvoir. Alors, pour revenir à votre question, sur le plan intégrité territoriale et pacification totale du pays, Martin Fayulu propose allouer 18% du budget de l'État congolais à la défense et à la sécurité. 18% veut dire pour Martin Fayulu que chaque année, nous allons allouer à l'armée, à la police et aux services de renseignement environ 6 milliards 840 millions de dollars, parce que dans son programme de 5 ans, le budget annuel moyen du programme de Martin Fayulu est de 38 milliards de dollars chaque année. Et donc lorsque nous disons 18%, nous allons revoir le budget affecté à la défense et à la sécurité à 6 milliards 840 millions. Et ça, c'est une rupture par rapport à la situation actuelle. Par exemple, dans le programme, dans le plan des 5 ans, ce qu'ils ont appelé la loi de programmation militaire, l'armée avait sollicité un budget de 5 milliards pour assurer la montée en puissance des FARDC. Le gouvernement actuel a échelonné ces 5 milliards sur 5 ans. Martin Fayulu, lui, propose d'aller au-delà par 6 milliards 800 millions. C'est-à-dire que notre ambition annuelle va au-delà de l'ambition quinquennale du pouvoir actuel. Et nous pensons qu'avec cette première mesure, nous allons constituer, et c'est dans le programme de Martin Fayulu, nous allons construire une armée composée de 600 000 hommes. Nous avons établi le chiffre de 600 000 hommes au bout de 5 ans, tenant compte de la superficie, tenant compte des menaces, tenant compte de la densité du pays. 600 000 hommes bien équipés, bien formés, disciplinés, motivés. Martin Fayulu propose également la reconstruction des casernes, des bases militaires, de tous les camps militaires qui jadis existaient dans toute la partie est de la RDC, depuis Luberizi, Rumangabo, jusque dans la province orientale, à Ituri. C'est contenu dans notre programme. Martin Fayulu prévoit la constitution des unités de protection de nos frontières. Martin Fayulu propose également que cette unité spéciale de surveillance de nos frontières soit basé à Beni,
où l'on va déplacer et construire un camp moderne qui la délocalisation du camp Kokolo à la construisant de manière moderne à Beni et qui va abriter cette unité spéciale. Mais au plan diplomatique...
Pourquoi seulement, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi seulement Beni alors que nous avons 9 voisins carrément?
Nous avons 9 voisins, mais Beni, c'est l'épicentre des massacres, l'épicentre de toute la crise sécuritaire à l'Est. Et nous pensons que de manière symbolique, il faut qu'une unité spécialisée y soit basée pour neutraliser tous ces réseaux de terrorisme qui endeuillent cette partie de la République nuit et jour. Alors, au plan diplomatique, à côté de la montée en puissance des FARDC, de nos services de renseignement et de la police, Martin Fayoulou propose qu'avec un leadership fort au sommet de l'État, nous puissions demander au Conseil de sécurité de trouver un lieu de relocalisation des FDLR afin de couper au Rwanda le prétexte de ces guerres d'agression. Nous avons vu la Grande-Bretagne proposer, déployer des réfugiés, les envoyer vers le Rwanda. Nous allons demander au Conseil de sécurité de trouver un endroit pour la relocalisation des FDLR parce que nous ne voulons plus que notre hospitalité qui nous a conduit à accueillir des réfugiés rwandais en 1994 soit pour nous source de malheur. Et si le Rwanda et la communauté internationale ne voudraient pas trouver une solution à ça, eh bien, avec la montée en puissance de notre armée, forte de 600 000 hommes et dotée annuellement par ce moyen-là, eh bien, nous n'allons plus continuer à sous-traiter la sécurité. Nous allons nous-mêmes régler ces problèmes.
Merci Jean-Baptiste Mundo Kiasekwa, Francis Kalombo, cadre du parti politique Ensemble pour la République. Vous êtes porte-parole du candidat Moïse Kiatumbi. Quelle est son offre pour restaurer la paix sur l'étendue de la RDC? Dans un de ses discours, hein, on l'a entendu dire qu'il va s'installer au Kivu et finir la guerre dans quelques jours. Voilà, est-ce normal une guerre qui a pris une vingtaine d'années, on peut la finir en quelques jours, Francis Kalombo?
Merci beaucoup, c'est possible parce que les causes de cette guerre est connue. Comme vous le savez, il faut d'abord pour que la guerre pour qu'on puisse mettre fin à la guerre, il faut un leadership responsable à la tête de la République démocratique du Congo, un chef de l'État que tout le monde pourra respecter parce qu'il est devenu chef de l'État, puisqu'il a mérité d'être chef de l'État, et pas un chef de l'État qui viendra, qui sera un jouisseur, ou un chef de l'État qui pourra être sollicité pour être corrompu ou quoi que ce soit. Donc il faut un leader qui est bien assis avec une équipe des hommes et des femmes capables de se transcender pour mettre en avant l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Et nous avons un avantage, puisque Moïse Katumbi l'a déjà expérimenté. Lorsqu'il devient gouverneur de la province du Katanga, l'ex-grand province du Katanga, Moïse Katumbi a trouvé des groupes armés, des rebelles, et il en a mis fin au bout de 4 mois. Parce que, ils ont compris qu'à la tête du pays et de la province, il y avait quelqu'un qui était sans base, qui ne pouvait pas céder à beaucoup d'autres choses. Il avait une personnalité, une forte personnalité, et qui faisait que ceux-là qui ont pris des armes ne pouvaient pas venir tergiverser avec Moïse Katumbi. Et l'armée et la police ont été responsabilisés et ils ont été équipés et ils ont eu des moyens, des primes. Chaque fois qu'il y avait des exploits, ceux-là avaient des primes. Et chaque fois qu'il y avait des blessés, la prise en charge était totale et correcte. Voilà pourquoi il y avait une telle motivation de la part de ces militaires, de la part de ces policiers qui ont travaillé dans ces contraintes pendant la période où Moïse Katumbi était gouverneur.
Parce que là, il était gouverneur d'une province. Aujourd'hui, il a l'ambition, il voudrait diriger ce pays. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour... c'est quoi son plan? C'est quoi son plan,
en fait? Mais j'en arrive. Puisque, bon, écoutez, vous comprenez, le sujet est sensible. Mais on ne va pas rentrer dans beaucoup trop de détails, mais je vais quand même éclairer pour que les gens comprennent. Déjà, lorsqu'on a un leadership responsable personne où on sait qu'il n'y aura pas de blagues, il n'y en aura pas. Et Moïse Katumbi ne va pas importer la sécurité. Ce qui nous affaiblit, c'est l'importation de la sécurité. Aussitôt qu'on est attaqué, on fait appel à l'importation. Et ceux qui viennent ne viennent pas pour mourir. Au contraire, ils viennent pour se remplir les poches. Deuxièmement, ils sont mieux payés. Nous devons d'abord bien rémunérer nos militaires et la prise en charge doit être totale et on doit comprendre surtout les blessés de guerre. Le moral des troupes doit être au zénith, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Et en ce moment-là, il n'y aura pas deux armées parce que vous avez d'un côté la garde républicaine qui est bien équipée en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle du budget de l'armée, y compris la garde républicaine, il y a cette injustice où on sent qu'il y a une armée qui est bien équipée, bien nourrie, et de l'autre côté, vous avez une armée qui est abandonnée, laissée pour compte. Et cette injustice-là fait que, des fois, entre eux militaires, il y a ce qu'on appelle une sorte de découragement. C'est ce que nous apprenons. Et l'ennemi est au courant de tout, puisque l'ennemi nous observe de loin. Et tout à l'heure, on a parlé des actes de l'air. Nous devons parler aussi des rebelles ougandais qui sont chez nous. Une fois qu'il y a un leadership responsable, je parie que ces rebelles qui non seulement tuent, ils n'ont jamais tué au Rwanda, même pas du Bush, mais ils tuent chez nous. C'est des gens qui viennent chez nous, qui tuent, qui occupent des terrains, qui commercialisent, qui s'enrichissent en étant chez nous, en imposant leurs lois. Nous devons dire terminer et nous devons mettre fin. Et ça va se mettre, ça viendra de soi parce qu'on va sentir qu'à la tête de la République démocratique du Congo, nous avons quelqu'un qui ne va pas badiner et que l'armée aura confiance en leur chef et nous allons doter notre armée des équipements parce que là aussi ça fait défaut. Puisque des fois lorsqu'on va acheter des matériaux pour notre armée, eh bien, ce qu'on nous amène, ce qu'on amène à nos militaires des fois ne sont pas conformes ni adaptés. Il faut qu'il y ait des professionnels, des hommes et des femmes, des Congolais, qui peuvent se transcender. On a vu Mamadou Ndala, on a vu les Général Bahouma, on a vu beaucoup, et nous en avons dans notre armée des responsables qui, une fois responsabilisés, une fois dotés des moyens, et je parie qu'ils vont faire des miracles, et il n'y aura même pas question d'hésitation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la corruption qui bat son plein, c'est l'affairisme qui bat son plein, et partant de là, lorsque les gens ne sont pas bien rémunérés, et ils sont en armes, et ce que nous constatons sur terrain, c'est ce qui arrive. Donc, ici, les voisins aussi doivent comprendre qu'à la tête de la République démocratique du Congo, il n'y a plus des affaires. Ce sont des relations que nous devons faire entre États, et nous n'allons pas tergiverser, ni accepter que le voisin vienne chez nous, tue chez nous, et après, demain, on se met, on appelle, voilà, ce sont des amis. Non, avec Moïse Katumbi, et il va mettre fin à la guerre, et il est sûr de pouvoir le faire parce qu'il discute avec certains de nos militaires. Moïse a été au front. Nous avons fait Beni, Butembo, partout. Avant même la campagne électorale, nous avons tâté, nous avons discuté avec des hommes et des femmes. Et je pense qu'il y a la possibilité, lorsque les gens disent que cette guerre a trop duré, mais les gens oublient une chose, le Congo était morcelé. Jean-Pierre Bemba était devenu sujet des droits lorsqu'il a pris des armes avec les Ougandais qui l'ont amené, qui l'ont protégé. Et Moussa Niamoui qui contrôlait une partie du pays, Roger Lumbala, et le RCD, de l'autre côté, contrôlait une grande partie de la République démocratique du Congo. Avec les accords de Lusaka, ils étaient devenus des sujets des droits. Mais tout ça, on a pu mettre fin à ça. D'un côté, on a fait la guerre, on a résisté. De l'autre côté, on a dialogué. Il y a eu le dialogue intercongolais où les hommes et les femmes ont été et nous avons trouvé une solution pour réunifier d'abord la République démocratique du Congo et pacifier un autre pays. Et lorsque le président Félix arrive au pouvoir, eh bien, ce n'est pas une grande partie du pays n'était pas occupée comme nous le voyons aujourd'hui.
Alors, on retient que pour le candidat Moïse Katumbi, il faut mieux payer ou bien payer les militaires et bien les équiper, ce qui va aider le pays ou les militaires à neutraliser tous ces groupes armés qui pullulent dans la partie orientale de la RDC.
Et responsabiliser les personnes qui sont capables de se transcender pour l'intérêt général, et ça existe dans notre armée, et il faut les responsabiliser de manière à ce qu'ils puissent se mettre debout et aller affronter l'ennemi plutôt que de compter sur les étrangers qui doivent venir chez nous. Non seulement ils viendront pour ne pas mourir, mais aussi pour piller eux aussi à leur tour. On ne peut pas appeler l'ennemi pour venir, l'adversaire, celui qui pille chez nous, pour venir nous défendre. L'Ouganda, on sait bel et bien ce que fait l'Ouganda, la République démocratique du Congo, mais on les invite aussi officiellement, tout comme on a fait avec le Rwanda. on les a invités aussi officiellement pour venir chez nous goûter dehors des APLR. Non, ce n'est pas possible. Nous devons sécuriser notre pays en dotant nos militaires, mais en responsabilisant aussi des hommes et des femmes. Des hommes d'expérience, nous en avons en République démocratique du Congo, qui sont capables de se transcender et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le Congo avance. Et tout ça ne peut être possible que lorsque nous avons un leadership à la tête de la République démocratique du Congo qui ne va pas tergiverser pour la sécurité ni pour la gestion de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, on va le respecter.
Francis Kalombo, le candidat Martin Fayulu estime ou propose que lorsqu'il sera... Pas propose, il dit que lorsqu'il sera, s'il est élu président de la République, il va louer du 18% du budget de l'État à la défense et à la sécurité. Et votre candidat, Moïse Katumbi, ça sera combien de pourcent du budget, de son budget?
Non, le problème, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sujet d'abord reste stratégique. Et nous ne pouvons pas fragiliser notre pays en détaillant sur la place publique les petits détails que nous avons qui sont quand même très très capitales pour sécuriser la République démocratique du Congo. Ce qui fait que, je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de survoler sans toutefois donner beaucoup plus de détails, non pas parce qu'on n'en a pas, puisque les détails nous les avons, mais pour ne pas permettre à ce que l'adversaire puisse savoir comment nous allons fonctionner et comment nous allons faire.
Merci.
Donc ça c'est un sujet, et même maintenant, je ne suis pas en droit de critiquer la politique actuelle de notre pays, même si ça ne donne pas de fruits, tout simplement parce que le pays est en danger, le pays est agressé, et si et seulement si c'était entre nous Congolais, c'est différent, mais puisqu'il s'agit des armées étrangères en République démocratique du Congo qui nous agressent, je ne peux pas non plus fragiliser mon pays en commençant à critiquer la gestion actuelle par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, et ceux qui attendent de ça de moi, ils ne mourront jamais parce que nous ne pouvons pas fragiliser les pays. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul pays et nous devons tout faire pour pouvoir
protéger et sauvegarder notre pays. Merci, M. Kalombo. La réalisation me signale que Mwindo Nzangi est en ligne. Il est reparti, voilà. En attendant de le rappeler, on va donner la parole à Henri Pacifique Maela, qui est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, un projet conjoint de Jacques Boutelli, Human Rights Watch et la Bride Way Foundation. Henri Pacifique, Pacifique, voilà, Maela, vous avez suivi Jean-Baptiste Kasekwa, de l'ECIDE qui a survolé un peu ce que prévoit le candidat Fayulu s'il est élu président de la République, ce qu'il fera pour restaurer la paix sur l'étendue de la RDC. Vous avez suivi aussi Francis Kalombo, porte-parole adjoint du candidat Moïse Katumbi. Votre analyse sur l'offre des deux candidats.
Avant de revenir sur les propos de mes deux co-débatteurs que j'ai salués en passant, je voudrais revenir sur la campagne en général telle qu'elle s'est déroulée jusque-là, à 8 jours des élections. Je crois que je suis resté sous ma soif parce que le débat public, on a espéré avoir les échanges de fond. C'est pas ce que nous avons vu, mais heureusement que nous avons les plateformes comme dialogue entre Congolais, où nous pouvons quand même essayer plus ou moins de rappeler les uns les autres sur ce qui importe le plus pour le pays au-delà du sensationnel. Et pour moi, d'entrée des jeux, je voudrais dire que cette question sur la sécurité et l'avènement de la paix, une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau national, on ne pourra y parvenir qu'après avoir été à mesure de trouver la balance entre trois dimensions qui pour moi me semblent primordiales, c'est-à-dire la diplomatie, la coopération et la force, une armée forte, je vais dire. Alors, je suis content déjà que mes co-débatteurs y aient fait allusion, et quand vous essayez un peu de scrutiner les programmes qu'offrent les différents candidats aux élections présidentielles sur le volet sécuritaire, vous trouvez quand même qu'il y a eu une réflexion de fond qui a été faite. Et malheureusement, c'est là que je suis resté sous ma soif, parce que ces réflexions telles qu'elles sont présentées sur les papiers n'ont pas été communiquées en tant que telles lors des différentes manifestations ou meetings publics. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais souhaité voir ce genre de débats, ce genre d'échanges entre les leaders avec les populations. Je suis d'accord avec l'honorable Kasserwa quand il fait allusion au focus sur Beni. Oui, Beni représente d'une certaine façon l'épicentre d'une certaine type de violence, mais il ne faudrait pas singulariser le problème ou essayer de l'isoler, sinon on a Kwamouth, à l'ouest du pays, à quelques kilomètres de Kinshasa, qui est en train de donner une certaine, en tout cas qui est en train de prendre une certaine allure qui risque de nous exploser en face d'ici là si on ne prend pas, les mesures adéquates à ce stade pour prévenir, gérer, c'est prévenir dit-on. Et donc je crois que si on continue avec ce focus, c'est vrai que le problème de l'Est, ça ne nous laisse pas, ça nous préoccupe tous, mais je crois qu'il faut de plus en plus avoir des plans qui soient inclusifs, qui considèrent, qui prennent en considération tous les problèmes sécuritaires que nous avons, ceux qui sont là-dedans et ceux-là qui ont déjà, qui nous causent des problèmes. Je pense par exemple aux dynamiques que nous vivons dans le sud-sud du Minembwe, c'est très loin de Beni, mais nos compatriotes sont en train de mourir là-bas aussi. Et je suis encore d'accord, le fait de lier le besoin d'avoir les efforts diplomatiques liés aux efforts de la montée en puissance des FARDC, la même chose sur laquelle s'est apaisé l'honorable Kalombo, dans le sens où si nous n'améliorons pas le social des hommes, si nous n'améliorons pas les conditions de nos FARDC, on ne peut pas continuer tout le temps à chercher des problèmes, à chercher des solutions ailleurs. Et c'est là aussi d'où vient la dimension sur la coopération. Qui est notre interlocuteur en face? Faire appel à des pays comme l'Ouganda, Burundi pour venir régler nos problèmes, c'est un peu une vision court-termiste et je crois qu'il faut changer cela. À cela aussi, il faut approfondir les réflexions. Je faisais allusion au programme de société que présentent les différents candidats et c'est vraiment riche, partant du président Félix. Les quatre mesures phares que le président présente commencent par une institutionnalisation et réforme de la communauté du renseignement. La même phrase que vous retrouvez presque structurée de la même façon au sein du programme que présente ou qui est en train de proposer le président Martin Fayoulou ainsi que le président Moïse Katumbi. Donc, vous comprenez que le diagnostic a été posé. La question sur pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à ce stade, après les multiples efforts diplomatiques qui n'ont pas suivi l'investissement dans nos forces et qui font à ce que nous puissions nous retrouver dans une situation de surplace, ils ont été posés. La question réelle, c'est qu'on semble avoir eu ce même discours il y a 5 ans, on semble avoir eu ce même discours durant le régime du président Kabila. Et la question qui persiste, c'est pourquoi est-ce que nous parvenons à établir ces diagnostics, mais nous ne savons toujours pas passer à l'action. Et donc, pour moi, je crois que l'une des solutions serait pour les candidats actuels de se focaliser un peu comme le disait l'honorable Kalombo, que nous avons des problèmes internes en tant que Congolais, il faut savoir bâtir sur des solutions congolaises, sur ce qui a été déjà fait. Je pourrais faire allusion aux problèmes liés à la réforme des FARDC. Dans le programme du président Moïse Katumbi, il y a par exemple une approche qui fait allusion à l'interdiction d'affectation des commandants d'unités dans les provinces d'origine. Ça, c'est par exemple l'un des mots qui tue l'organisation des FARDC. Mais il y a déjà un travail qui a commencé là-dessus à l'époque du président Joseph, je parle sous le contrôle de l'honorable Kasekwa, où on est passé, par exemple, de l'organisation de l'armée en région militaire vers les zones de défense, c'était en partie pour faire face à ce problème-là. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où il y a eu, à un moment donné, une rupture. Et pour moi, j'encouragerais, par exemple, le président Katumbi, si jamais il faudra mettre cette politique en marche, de revenir sur ce qui a été fait, de traduire une certaine continuité dans la politique de ce pays. Nous ne sommes pas les seuls qui faisons face à ce genre de problème. Nos voisins à côté peuvent être un exemple qui parle. L'Angola a connu presque la même histoire que le Congo, une période de guerre suivie par une fragilité post-conflictuelle, mais ils sont parvenus à restructurer leur appareil militaire et aujourd'hui, c'est l'un des pays qui, lorsqu'on parle des interventions ou des forces militaires, et d'ailleurs, nous sommes en train d'aller auprès d'eux pour trouver des solutions à nos problèmes. Donc, merci. Pour moi, je crois que essayons de nous concerter en tant que Congolais, si cela pourrait être possible, pour essayer de voir ce qui a été déjà fait, bâtir dessus, et essayer de nous projeter sur des solutions long terme. Et je crois que c'est encore possible. C'est là au-delà même des programmes restreints, parce qu'il y a aussi, par exemple, le programme du docteur Mukwege, le plan de paix sur 12 axes, qui contient des éléments que je crois alloués à d'autres éléments qui se représentent, le travail qui a déjà été fait, avec ce que le président Félix, par exemple, propose dans les 4 mesures phares de la dimension sécuritaire et ce que le président Martin est en train de proposer sur l'amélioration des conditions sociales, les restructurations juridiques que propose le président Moïse, le tout ensemble représente le diagnostic vrai et réel au problème qui déstructure les FRDC.
Merci.
Et si nous pouvons avoir tout cela en place, cela pourrait être une solution durable.
Alors, on me signale que Mundon Zangui est en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Nzangui, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a toujours un problème avec sa ligne téléphonique. On va ouvrir le standard pour donner la parole aussi aux auditeurs qui veulent intervenir dans cette émission. On va se rendre dans la province de la Tchopo, plus précisément à Kisangani, pour écouter cet auditeur, Jedidia Mabela. Voilà.
Mabela, Jedidia. Je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Je suis particulièrement très déçu de cette campagne électorale au cours de laquelle les candidats présidents de la République se livrent plus à la polémique sur des questions futiles, par exemple Nakissa Mama, candidat de l'étranger, etc., au lieu d'aborder des questions existentielles, notamment celles de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. Même quand il le fleure, personne nous présente les détails croustillants de son offre et la stratégie à mettre en place à même de résorber cette insécurité chronique qui ravage notre Congo. Tous, sans exception, nous parlent de la réforme de l'armée comme une panacée, sans donner les contenus de cette réforme ni ses axes prioritaires. Nous espérons que les restes des jours de cette campagne seront consacrés au débat des fonds pour nous permettre de choisir la meilleure offre politique.
Il aborde un peu dans le même sens que notre analyste Henri Pacifique. Mayala, ça manquait, au fait, tout ça manque dans cette campagne électorale, Jean-Baptiste Kassé, quoi.
Peut-être faute de temps, mais Pacifique peut se rappeler que le candidat numéro 21, Martin Fayulu, a présenté son offre déjà à Kisangani lors de notre deuxième congrès tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet. Dans ce document que nous avons baptisé effectivement le manifeste de Kisangani. Et dans ces différents...
C'était
médias,
lors du congrès du parti.
C'était lors du congrès du parti. Et à cette occasion-là, depuis lors, nous rendons public, n'est-ce pas, l'offre du candidat Martin. Et à l'occasion des
dans
différents...
Dans les quatre langues nationales ou juste en français?
En français, principalement en français. Mm-hmm.
mais à différentes occasions, en tout cas, nous échangeons avec les différentes couches de la population pour les amener à comprendre ce que nous nous proposons. Et depuis que la campagne électorale a commencé, eh bien, Marthe Fayoulou s'attelle là-dessus pour dire « Voici mon programme qu'il présente sous la forme d'un immeuble qu'il veut construire en disant « Je voudrais commencer par les quatre murs de la fondation et ces quatre murs, le premier mur, c'est l'intégrité territoriale et la pacification totale de notre pays. Le second mur, c'est la tolérance zéro, corruption. Le troisième mur, c'est le troisième mur, disais-je, que présente Martin, c'est la cohésion nationale, parce qu'il est impossible de penser à la reconstruction de la RDC si nous ne trouvons pas de mécanismes qui amènent les Congolais des différentes tribus, des différents horizons, à se sentir unis comme un seul peuple. Et le quatrième mur que propose Martin, après la cohésion nationale, après la tolérance zéro, après la défense de l'intégrité territoriale, c'est la légitimité du pouvoir et l'état des droits. Et après ces quatre murs, dans ces meetings, Martin Fayoulou s'appelle sur les six priorités qu'il développe, ça et là. J'ai été avec lui dans différentes tournées, c'est ce qu'il fait. Et après ces six tournées,
il
propose...
Alors, il seulement, prenant du volet sécuritaire, est-ce qu'il survole seulement les grands axes ou bien il entre dans les détails?
Parce bien entendu.
La population veut savoir ce qu'il va faire concrètement. Ils veulent avoir beaucoup plus de détails que des...
J'étais avec lui, par exemple, lors du meeting tenu à Uvira, au sud Kivu. Et là, ce n'était pas seulement en français, parce que j'étais là pour l'interpréter, traduire en swahili. Il a proposé effectivement ce qu'il comptait faire, apporter comme rupture, et démontrer que depuis que le Congo a renoué avec les élections 2006, 2011, 2018, la situation sécuritaire post-électorale s'est toujours détériorée. Et cette détérioration dénote à quelque part une absence de volonté. Et que lui voudrait apporter une rupture. Et cette rupture-là, il a démontré déjà, partant de la part du budget. Il démontrait, par exemple, que pour lui, au-delà de ce budget actuel de 16 milliards, tenant compte, par exemple, de ce que Luzolo Bambe avait dit, que la corruption nous prenait 15 milliards, qu'avec le pilier de la tolérance zéro corruption, il est en mesure de ramener au moins 7 milliards de cette marge qui s'avance de la corruption, et qu'avec le budget qui sera amené à 38 milliards, et donc, il va apporter des réformes substantielles, et parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les guerres qui nous sont imposées de l'extérieur. Nous avons également, par exemple, les violents, la criminalité urbaine.
Exactement, j'allais justement en parler.
Et Marthe Fayoulou proposait dans son...
Mais aussi les conflits interethniques.
Les conflits interethniques, c'est là que Marthe Fayoulou parle du programme de la cohésion nationale. Alors, pour parler, par exemple, de la criminalité urbaine, Marthe Fayoulou, dans son programme, en allongeant le budget affecté à la défense et à la sécurité à 18%, propose que les enfants des militaires et des policiers, leur scolarité sera prise en charge par l'État depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Parce qu'il est inacceptable de constater que pendant que des militaires donnent de leur vie, versent leur sang, ils sont à Bounagana, ils sont sur toutes les lignes de front, que leurs enfants à Kinshasa, Lubumbashi, ça et là, soient abandonnés et qu'on retrouve des enfants de militaires qui ne parviennent pas à suivre une scolarité normale. On les retrouve parmi les enfants de la rue. Et donc déjà, en prenant en charge la scolarisation des enfants des militaires et policiers, ce sera une mesure pour contribuer à réduire la criminalité urbaine, les taux des enfants de la rue. À part ça, Martin Fayoulou propose dans son programme la création des écoles de métiers. Vous avez des filles mères qui ont eu la malchance, par exemple, d'enfanter trop tôt et qui n'ont pas fait une scolarisation normale. Vous avez beaucoup d'autres jeunes gens qui ont des talents, des atouts, mais qui nécessitent des formations. Si nous organisons des centres de métiers et tout ça, c'est planifié dans notre budget. Nous organisons ces centres-là, et bien nous les récupérons. Marthe Fayoulou axe une autre politique centrée sur le développement des disciplines sportives. Parmi tous ces jeunes gens, Chegue et autres, nous pouvons les encadrer et nous les avons vus dans des clubs de football, de karaté et autres.
Occuper ces jeunes.
Nous pouvons les occuper par toutes ces disciplines sportives, par ces formations professionnelles. Et ainsi, nous serons en train de pallier à la criminalité urbaine. Merci. Mais cela est encadré par une police qui aura été forte, partant de tous ces recrutements et de tous ces moyens conséquents que nous allons allouer à la police, contrairement à la situation actuelle où vous avez dans une ville comme Kinshasa ou Goma ou Kisangani, très peu d'éléments de la police, vous avez des moyens de déplacement vétustes, et nous avons dans notre programme du candidat numéro 21 des éléments convaincant pour améliorer toutes ces situations. Ouais.
Merci Jean-Baptiste Kassé-Kwa. David Wedi de Kinshasa, estime que c'est déjà entendu tout ce qui s'est dit dans cette émission. Ce sont juste des discours politiques pour se faire élire. Une fois élu, on oublie vite ce qu'on avait promis pendant la campagne électorale. Alors, il y a Chadra Kapso Kakwende de Pimbujimaï aussi qui nous a écrit. Gelor Mwenze, je pense que la plus grande, ce n'est pas trop lisible, on ne voit pas très bien ce que vous écrivez. Alors essayez d'être concis hein, lorsque vous nous envoyez vos messages pour les lire, chers internautes. Alors avant de reprendre la lecture des messages des internautes, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, Sud Kivu.
C'est Herissi Rikupata Serge, j'interviens de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Dès le début de cette campagne, on savait déjà que tous les candidats vont se servir de la question sécuritaire comme arme pour s'attirer des voix. Mais à mon humble avis, je présume que toute personne avertie ne va pas se limiter seulement sur des promesses vagues. Cependant, je proposerai aux électeurs d'avoir le temps d'examiner de près ces propositions et évaluer leur faisabilité. Il sera également crucial pour les candidats de présenter des plans détaillés et concrets pour améliorer la situation sécuritaire et non seulement des promesses vagues. Pour les candidats de l'opposition, d'expliquer ce qu'ils vont faire et qui n'a pas été fait par le président sortant pour amener la paix. Pour le président sortant, d'expliquer les limites auxquelles il s'est heurté et comment il pense les surmonter une fois la population lui renouvelle sa confiance. Pas besoin de promesses qui ne seront pas réalisées.
Francis Kalombo, j'avais suivi cet auditeur de Bukavu qui demande aux candidats de l'opposition d'expliquer clairement ce qu'ils vont faire et qui n'a pas été fait par le président sortant pour amener la paix.
Oui, merci beaucoup. D'abord, on n'aura pas un président de la République jouisseur qui va s'en occuper pendant qu'il y a la guerre et ils font la fête. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il ne faut pas faire pour ne pas baisser le moral des troupes. Mais quand cela ne tienne, le problème de budget, on peut donner tous les chiffres. C'est comme le budget de la République démocratique du Congo aujourd'hui. On a un budget de 16 milliards et les gens vivent comme si, même pire encore que lorsque le budget était de 4 milliards. Les chiffres, on sait ce que c'est que le chiffre, mais il faut qu'il y ait une détermination. Moi, j'ai eu la chance de participer à tous ces grands rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo. De Lusaka à San Suu Kyi, même participer à la conférence internationale pour la pacification de l'Ituri. C'est-à-dire que l'expertise, l'expérience, et j'ai entendu les uns et les autres, et nous savons ce qu'il y a à peu près, réellement. Et c'est comme ça que j'ai dit d'entrée de jeu, le sujet est tel que il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas donner, parce que les adversaires sont là, prêts à nous écouter, à utiliser certaines choses que nous voulons dire. Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, il faut qu'il y ait un leadership responsable à la tête de la République démocratique du Congo
pour qu'on puisse avoir peur de la République. Deuxièmement, vous pourrez avoir 6 milliards. Lorsque les 6 milliards qu'on débourse et reste à Kinshasa, et que sur le front, il n'y a rien, lorsqu'on va acheter des armes par des gens qui sont des prédateurs, qui vont multiplier, surfacturer les prix de ces armes-là, et que la moitié, ça sera des affaires, des hommes d'affaires qui vont aller acheter des armes, rien, mais rien ne pourra marcher, puisqu'on aura des armes comme on est en train de voir aujourd'hui, et parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas donner. Il s'agit de mon pays, et il s'agit de la protection de mon pays. Je ne veux pas me mettre, franchement, à entrer dans beaucoup d'autres détails ou critiquer, comme demande l'auditeur, ce qui n'a pas été fait beaucoup plus ici. Parce que on a des armes qui ne sont pas conformes, des munitions qui ne sont pas conformes. On revient encore à l'époque de Mobutu, lorsque la guerre d'Afrique avançait, où les gens n'avaient pas la possibilité d'avoir des armements pour combattre l'ennemi. L'ennemi, on peut le combattre, sauf que ce qui se passe ici, c'est que nous importons le même ennemi, nous les donnons le feu vert de venir chez nous et de travailler chez nous. C'est ça déjà le premier problème que nous avons.
Alors,
ce qu'il faut faire, je suis par là, il nous faut un leadership qui ne sera jamais corrompu, qui ne va jamais céder à telle ou telle tentation. Et c'est surtout ça qui fait que même les militaires, même les responsables de combat responsabilité, lorsqu'on sait déjà que le chef lui-même ne va pas prendre l'argent de l'État, le chef lui-même ne va pas utiliser telle ou telle autre chose, ne touchera pas des commissions, et bien celui à qui on va envoyer aura peur déjà d'entrer déjà. Lorsqu'on va responsabiliser les hommes et les femmes qui seront vraiment des responsables pour nous permettre de gagner la guerre, et bien nous gagnerons la guerre parce que nous avons des militaires bien formés en République démocratique du Congo, nous avons des hommes et des femmes capables de se transformer, sauf qu'il faut les responsabiliser. Lorsque Mamadou Ndal a pris des armes, lorsqu'il a lutté contre les
M23, vous l'avez déjà dit, Francis Kalombo, alors la situation où la sécurité n'est pas causée uniquement par les groupes armés locaux et étrangers, mais il y a aussi les conflits inter-ethniques et le banditisme urbain. Alors, qu'est-ce que Moïse Katumbi prévoit de faire pour mettre fin, par exemple, au banditisme urbain, s'il est élu président de la République?
Oui, les deux d'ailleurs, en ce qui concerne la guerre qu'on voit entre les ethnies, ça il faut dialoguer. Ce sont des Congolais, il faut dialoguer, trouver des voies et moyens parce que c'est souvent envenimé par les politiciens à mal de positionnement. Vous voyez d'autres conflits avec des chefs coutumiers. Vous avez, là, il n'y a pas longtemps, chez moi, Benampiana, un chef coutumier, un politicien, un député, qui veut mettre un autre chef, alors qu'il existe un chef coutumier reconnu par tout le monde, mais il veut mettre un gars à lui comme chef coutumier. À partir de là, ça crée des conflits entre les tribus, entre les communautés. Et ça, c'est les politiciens qui sont derrière. Par contre, ce qui concerne le banditisme urbain, je vous dis, je pense que notre ami de l'ECD l'a bien dit, il faut occuper ces jeunes. Il faut que le sport puisse prendre son temps. Mais malheureusement, il y a une telle crise en République démocratique du Congo que les parents sont abandonnés, ils ont perdu leur autorité sur les enfants. Voilà pourquoi nous, Moïse Katumbi propose que tout citoyen congolais qui atteint 65 ans doit garder ce respect vis-à-vis de ses enfants, c'est-à-dire il doit toucher un minimum de $50 par mois pour lui permettre de garder une certaine autonomie, afin de pouvoir garder... Parce qu'il va envoyer son enfant de 14 ans aller dehors, aller débrouiller, parce que lui ne sait pas quoi faire, parce qu'il n'a pas d'argent. Le chômage a atteint un tel point que les parents abandonnent même les enfants. Une fois que les enfants sont abandonnés, c'est la rue qui prend la place. Et la police qui n'a pas suffisamment de moyens, ne sait pas lutter tout simplement pour arrêter, par exemple, les gens vendent de la drogue dans la rue. Partout, c'est connu, mais qui va les arrêter ? Par manque d'autorité de l'État. L'alcool, là, qui est tout le monde, vous voyez un enfant de 5 ans, de 15 ans, pardon, ou de 12 ans, en train de prendre cet alcool-là. Et aux yeux aussi de tout le monde, on ne peut pas l'arrêter, personne ne peut faire, parce que les parents ont perdu leur autorité sur leurs propres enfants, parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, même rien à donner à leurs enfants, et ils sont obligés même de demander à ces enfants-là si ils ne leur posent pas, même pas la question de savoir où ils ont trouvé l'argent, ou les moyens de s'acheter tout ce qu'ils les achètent. Donc ici, il y a ces problèmes-là, mais il faut aussi essayer d'encourager nos sportifs. Parce que la plupart de ces jeunes délinquants, ils sont aussi des sportifs. Il faut mettre beaucoup de moyens, mettre beaucoup de compétitions pour qu'en compétition, qu'ils puissent gagner les moyens par le sport, et ça va valoriser et les pays et les sportifs eux-mêmes, partant de là, je parie que l'autre candidat est le sportif numéro 1 à la République démocratique du Congo, qui sait mettre en place des structures, des infrastructures, pour permettre à ce que le jeune puisse être occupé, et il a des écoles. Par exemple, pour le football, on peut en créer, pour les arts martiaux, on peut en créer pour d'autres choses, et nos artistes aussi, pour occuper des jeunes, au lieu qu'ils soient des délinquants, ils peuvent aussi participer dans l'art, lorsqu'ils n'ont pas eu la chance, par exemple, d'étudier, mais ils peuvent apprendre des métiers, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. De ce côté-là, nous avons un programme ambitieux que nous mettrons à la disposition, qui est un programme simple et pragmatique, parce que nous, nous ne sommes pas dans la littérature. Nous, nous allons faire du concret.
Merci.
Si Moïse était président de la République, ça va être du tic au tac et du concret, et les gens vont palper parce qu'il y aura des taxes, non pas pour s'amuser avec, mais pour financer ce que nous appelons la sécurité de nos parents, c'est-à-dire à 65 ans, chaque citoyen congolais doit toucher un minimum de salaire. S'il n'a jamais travaillé, puisque ceux qui ont travaillé ont l'avantage de toucher leur retraite.
Merci, Francis.
Doivent quand même toucher quelque chose.
Merci, Francis Kalombo. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui appelle.
C'est Japheth Eunga depuis la ville de Kinshasa. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les différents discours des candidats présidents concernant la question sécuritaire. Le gouvernement actuel avait promis de rétablir la paix dans la partie est, mais jusqu'à ce jour, l'insécurité persiste. Les conflits ethniques ont été multipliés et les groupes rebelles locaux continuent à massacrer les paisibles citoyens. À mon avis, il est vrai que dans le cadre du propagande, tout candidat peut donner son point de vue, mais jusqu'à maintenant, aucun candidat m'a convaincu à ce qui concerne la question de la paix, non seulement dans la partie est du pays, mais aussi sur l'étendue du pays. Nous avons, par exemple, ici à Kinshasa, les phénomènes Kuluna qui se multiplient, mais nous ne voyons pas de mesures contraignantes pour terminer ces phénomènes, d'où nous demandons aux candidats de nous présenter une politique claire sur la question sécuritaire.
Henri Pacifique, lorsque vous écoutez les différents auditeurs qui interviennent ou qui donnent leur point de vue, qui ont donné leur point de vue, tous reviennent sur le fait que les candidats, leur discours au passage dans l'une ou l'autre province, n'insistent pas trop sur comment ils vont s'y prendre pour restaurer la paix, pour pacifier la partie orientale de la RDC. C'est... Ils survolent juste, hein, et alors que la population a besoin d'aller un peu plus en détail, de savoir concrètement comment ces candidats vont s'y prendre. Vous-même, vous êtes revenu sur ça lors de votre première prise de parole. On sent que c'est un besoin réel au sein de la population de vraiment s'approprier les programmes des différents candidats afin de pouvoir faire un choix le 20 juin, plutôt le 20 décembre 2023.
Oui, tout à fait, Madame Kelly. Et je continue de croire que nous ne pouvons malheureusement pas interdire aux acteurs politiques de faire allusion au... en tout cas, utiliser l'approche ou aborder les tactiques qui semblent marcher mieux pour eux. Mais, comme je le disais personnellement, et comme viennent aussi de le soulever certains de nos compatriotes qui nous suivent, cette campagne électorale, il y a eu beaucoup d'attentes, parce que pour moi, je continue de croire que le Congolais de 2006, il n'est pas le même que celui de 2011, moins encore celui de 2018, et surtout pas le Congolais de 2023. Nous continuons de voir les guéguerres autour de qui a eu le plus de personnes, mais on devrait se souvenir qu'il y a des élections passées, c'était le même jeu. Il y a eu les gens qui ont mobilisé, effectivement, comme le reconnaissent l'honorable Francis et l'honorable Kasekwa, les populations sont affamées, c'est-à-dire que les plans de meeting, c'est les gens qui viennent récupérer un peu de leur argent qu'ils ont eu à payer sans pour autant le vouloir à travers la taxe RAM ou à travers les dysfonctionnements qui ont fait croupir cette population déjà vulnérable. Et heureusement, si je peux glisser un mot. Nous avons travaillé sur un outil d'aide au vote. Nous avons rencontré la majorité des acteurs politiques, principalement les candidats à l'élection présidentielle, avec lesquels nous avons eu un échange autour des priorités, les axes prioritaires pour eux. Et c'est un outil qui, plus ou moins d'une certaine façon, peut assister nos compatriotes à se faire, à se représenter une idée de ce que représentent les priorités pour tel ou tel autre candidat et au final avoir une certaine visibilité sur quel candidat s'aligne le plus avec leurs attentes. C'est une application facile à utiliser et là c'est dans notre rôle pédagogique en tant que chercheur où vous envoyez le mot Keba sur WhatsApp au 993-777-747 et vous allez avoir une séance interactive où on va vous poser des questions sur ce que vous pensez concernant la sécurité, l'agriculture, la santé, toutes ces questions-là et au final vous pouvez voir avec quel candidat ou vous êtes beaucoup plus proche avec quel candidat. Moi, je continue de croire qu'au sein des partis politiques, c'est là que se forgent les bons citoyens, mais les partis politiques continuent d'échouer dans leur mission. On a toujours des problèmes, des solutions conjoncturelles aux problèmes structurels et ça ne nous avance pas. Il y a toujours une nouvelle approche qu'on essaie à faire accepter ou à apporter à une solution qui, déjà, pour le régime passé, il y a eu un soubassement, un travail qui a déjà commencé à être fait. On pourrait bien dire que ça a été chaotique par manque de bonne foi, mais il y a quand même quelque chose qui a été fait, et on peut bâtir là-dessus quand bien même le verre reste à moitié vide. Donc, pour moi, c'est encore un appel que je lance aux acteurs politiques d'aller vers les questions essentielles. C'est vrai qu'on ne peut pas définir du coup la stratégie unanime à tout le monde, mais quand même, il y a de ces questions-là qui ne peuvent pas se résoudre ou sur lesquelles les populations ont besoin d'entendre les leaders politiques, qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer, qu'est-ce qu'ils préparent pour eux. Et je reviendrai sur ce que disait l'honorable Francis, on peut ne pas critiquer frontalement, mais établir un diagnostic sur pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et comment est-ce que nous pourrons faire mieux pour essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Et pour moi, je continue aussi de croire que le travail que nous faisons au niveau des instituts de recherche, c'est effectivement ce travail d'essayer au maximum possible de garder notre neutralité, bien que dans ce pays, c'est quand même assez difficile de toujours rester neutre, mais nous essayons quand même d'approcher et les acteurs politiques de tous bords, opposition, et ceux au pouvoir, ainsi que d'intensifier nos collaborations avec la société civile.
Merci.
Il continue d'avoir ce besoin-là, que la population reste sur sa faim. On ne devrait pas toujours être amené à un vote aveugle. Il serait intéressant que pour les séances qui restent, il y a encore 8 jours, que les acteurs politiques, les leaders politiques, essayent plus ou moins de présenter leur vision la façon la plus clair possible, et pourquoi pas avoir Radio Okapi à les accompagner, à nous présenter le fond même de leur programme social.
Merci Henri Pacifique Mayala. On va considérer votre dernière phrase comme votre conclusion, parce que nous sommes pratiquement à 1 heure de l'émission. Alors, Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi, un mot par rapport à votre candidat, Martin Fayoulou.
Est-ce qu'ils doivent
faire confiance au programme qu'il présente?
Les autres Congolais à faire confiance au candidat Martin Fayoulou. On a dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de reconduire une équipe qui a totalement échoué. Si en 2019, Martin Fayoulou avait eu l'occasion d'exercer le pouvoir et de mettre à place ce programme fondé sur la réforme de l'armée avec cette révolution sensible du budget alloué à l'armée, au bout de 5 ans, nous aurions investi au moins 34 milliards dans la réforme des FARDC, de la police et de nos services de renseignement, nous ne serions plus en train de recourir, n'est-ce pas, à la sous-traitance de notre sécurité. Il est temps que le 20 décembre, les Congolais donnent leur confiance au candidat Martin Fayoulou pour que, avec toutes ces mesures concrètes contenues dans notre programme, eh bien, nous puissions apporter du changement. Il est vrai que nous devons féliciter Radio Capu et toutes les chaînes de radio. 30 jours de campagne pour 26 provinces, avec des territoires inaccessibles par voie routière ni par avion, eh bien, il est pratiquement difficile de vulgariser nos bonnes propositions. Néanmoins, nous faisons de notre mieux pour dire aux Congolais que nous avons pris le temps et nous continuons à enrichir notre programme qui est pratique. Nous pensons que de 2024 à 2028, Martin Fayoulou aura apporté du changement pour poser les bases de la pacification et de la refondation de la RDC.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kiasekwa. Je rappelle que nous devrions avoir Mouindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, dans cette émission pour venir parler du programme du candidat numéro 20. Candidat numéro 20, Étienne. Non, Félix Tshisekedi, malheureusement, nous n'arrivons plus à l'avoir au téléphone. Alors, Francis Kalombo, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République et porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Vous avez une minute pour votre conclusion. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kalombo? Je pense qu'on a perdu aussi Monsieur Kalombo. Voilà, on me signale qu'il n'est plus en ligne. Merci beaucoup à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais qui m'a accompagné dans la présentation de cette émission. Mimi Kindou, Guy Maté, Hervé Boka, Clément Chimanga, Donna Madimba, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.